Et justement, tenez, on va passer à la spiritualité du Jourdain. Alors là, il y a toute une spiritualité du Jourdain. On traverse Jéricho, et c'est un microclimat. Et à l'époque turque, je ne sais plus exactement quand, on a implanté ici toute une population du Soudan, parce que c'est un climat qui ressemble beaucoup au climat du Soudan. Et ces gens se sont très bien acclimatés, il n'y a pas de discrimination raciale, ils ont fait souche ici. Oui, alors c'est merveilleux, bah, les bougainvilliers, les flamboyants, il y a toute une végétation, là, puis beaucoup d'eau, mais de l'eau comme en Égypte. Hein. D'ailleurs, la comparaison n'est pas de moi, elle est faite par dans la Genèse. Là. Lot choisit ce pays parce que c'est comme un paradis, c'est comme l'Égypte. L'eau vient d'en bas. Et comme en Égypte, on vit un peu dans l'horizontale, ils n'ont pas envie d'en faire plus qu'il ne faut. Le meilleur moyen d'évoquer le style de vie qu'on adopte spontanément, d'après le climat ici à Jéricho, c'est de visiter le palais des Omeyyades. Alors on voit des escaliers qui n'en sont pas, on monte sans s'en apercevoir, et puis on passe sa vie assis dans l'eau. Il y a des piscines pour tout le monde, même pour les serviteurs, et une piscine pour ceux qui vivent au sommet là, de la pyramide sociologique. Et ce palais-là, qui est somptueux, il y a une mosaïque, telle finesse qu'on dirait une tapisserie, a été chamboulée par un tremblement de terre. Et on voit aussi pas mal de colonnes récupérées d'églises de l'époque byzantine et toutes martelées à l'endroit où il y avait une croix. On peut le visiter au passage. Oui, on vit dans l'horizontalisme, j'ai dit comme ça, à cause du climat. Mais ce que je voudrais surtout, alors, c'est parler de la spiritualité du Jourdain. Vous savez ce que ça veut dire, Jourdain? C'est vient de la racine Yarad, qui veut dire descendre. Hein. C'est le fleuve qui descend des neiges de l'Hermon, là, et puis qui, après avoir traversé le bouchon volcanique dont nous avons parlé au pont des filles de Jacob, après avoir traversé le lac, descend toute la vallée en faisant des méandres dans les fonds lacustres d'une mer antérieure qui, par la mer Morte et le lac de Galilée, forme une mer intérieure à des époques géologiques reculées, mais on n'en dit pas plus. Alors le Jourdain fait ses méandres de cette ancienne mer, et puis se jette au point le plus bas du globe dans la mer Morte. C'est le fleuve qui va descendre. Alors ici, pour nous mettre dans l'atmosphère de la rencontre, ben, il faut évoquer des tas de textes supposés connus. Il y a l'ascension d'Élie, j'ai pas le temps de le dire. On dirait que tous les grands commencements se font au Jourdain. Jésus est revêtu de l'esprit, ben, au Jourdain pour sa mission libérale. Ici que j'aime bien lire, ça tombe juste avant le pique-nique, là. On est vers midi dans la BST. Élisée, voilà, vit au bord du Jourdain avec des frères prophètes, des disciples, comme ça. Ils vivent dans le précaire et ils ont une hiérarchie des valeurs qui n'est pas celle des gens installés. Ils construisent des bicoques au bord du Jourdain, comme ça, dans les alliés du Jourdain. Alors Élisée revint à Gilgal, et puis les frères prophètes étaient assis devant lui. Il dit à son serviteur, mets la grande marmite sur le feu et cuit une soupe pour les frères prophètes. L'un d'eux sortit dans la campagne pour ramasser des herbes. Il trouva des sarments sauvages sur lesquels il cueillit des coloquintes, plein son vêtement. Il revint et les coupa en morceaux dans la marmite de soupe. On ne savait pas ce que c'était. On versa à manger aux hommes. À peine eurent-ils goûté le potage qu'ils poussèrent un cri. Homme de Dieu, il y a la mort dans la marmite. Et ils ne purent pas manger. Alors il s'est dit, apportez de la farine. Il jeta de la marmite et dit, verse aux gens et qu'ils mangent. Il n'y a plus rien de mauvais dans la marmite. Plus à lire ce texte-là. Tenez, il y a une multiplication des pains ici. Il voit qu'un homme de Baal Shalisha apporta à l'homme de Dieu des pains de prémices, 20 pains d'orge et du grain frais. Il leur donna, offre aux gens et qu'ils mangent. Son serviteur répondit, comment servirais-je cela à 100 personnes? Offre aux gens et qu'ils mangent, car ainsi a parlé le Seigneur, on mangera et on en aura de reste. Il leur servit, ils mangeaient. Et ils en lurent de reste sur la parole. Et alors il y a un récit après au chapitre 5 de l'Unité des Rois que l'Église nous fait lire pendant le carême et qui est très très riche de signification. Que Jésus citera comme le type du converti là, avec la veuve de Sarep. Alors Naaman est un grand chef d'armée, etc. De Damas, d'armée de Damas, il est lépreux. Alors une petite fille qui est là en captivité dit, ah si mon maître savait, le prophète qui est en Samarie le délivrait de sa lèpre. Alors Naaman va trouver Élisée, qui se dérange même pas. Alors Naaman est furieux, hein, c'est pas n'importe qui quand même, il se dérangeait. Je m'étais dit, sûrement il sortira, il se présentera, il invoquera le nom de Dieu, puis il agitera la main sur l'endroit malade. Est-ce que les fleuves de Damas, il avait dit, va te baigner cette fois dans le Jourdain. Il dit, est-ce que les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, valent pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y baigner pour être purifié? Il tourne la bride et partit en colère. Mais ses serviteurs s'approchèrent et s'adressèrent à lui en ces termes. Mon père, si le prophète avait prescrit quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus lorsqu'il te dit, baigne-toi et tu seras purifié. Il descendit donc et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole d'Élisée, et sa chair redevint nette comme celle d'un petit enfant. Alors ici, il descendit dans le Jourdain, oh, c'est intraduisible, va Yered Bayarden. Et on prend ce thème qu'on a déjà, il faut descendre au point le plus profond de nous-mêmes et descendre dans le Jourdain. Si c'était plus compliqué, on le ferait. Ben non, il faut simplement, par un effort de loyauté, là, se mettre sur la trajectoire de Dieu qui passe et là qui nous attend. Alors tenez un petit peu plus loin là. On arrive à un endroit qui s'appelle Mechola. Et Mechola, c'est la patrie d'Élisée. Et on a lu le récit de la rencontre avec Dieu de Élie à l'Horeb. Il rencontre Dieu dans un souffle doux et léger, vous vous rappelez ? Tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Mechola, comme prophète à ta place. Alors on passe à Mechola et lisons le récit que nous propose le paysan. Je l'appelle d'Élisée. Il trouva Élisée, fils de Shaphat, tandis qu'il labourait avec 12 paires de bœufs, lui-même étant à la 12e. Élie passa près de lui et jeta sur lui son manteau. Élisée abandonna ses bœufs, courut derrière Élie et dit : Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et j'irai à ta suite. Élie lui répondit : Va, retourne, que t'ai-je donc fait ? Élisée le quitta, prit la paire de bœufs et l'immola. Il se servit du harnais et des bœufs pour les faire cuire et donna à ces gens qui mangeaient. Puis il se leva et suivit Élie comme son serviteur. Ça nous projette dans l'évangile, hein, comme la multiplication des pains. Ouais, et la vie de Jérusalem nous renvoie à Luc chapitre 9, versets 61 et 62. Jésus fait route avec ses disciples. Tandis qu'il faisait route, quelqu'un lui dit : Je te suivrai où que tu ailles. Jésus lui dit : Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête. Il la reposera seulement sur la croix. Il dit d'un autre : Suis-moi. Celui-ci dit : Permets-moi de m'en aller d'abord enterrer mon père. Laisse les morts enterrer leurs morts. Pour toi, va t'en annoncer le royaume de Dieu. Oui, la hiérarchie des valeurs est bouleversée. Il y a une tête de pont par-delà l'absurde. Et alors, laisse les morts enterrer les morts. Tu as annoncé la bonne nouvelle de la résurrection. Un autre dit encore : Je te suivrai, Seigneur, mais d'abord, permets-moi de prendre congé des miens. Jésus lui dit : Quiconque a mis la main à la charrue et regarde en arrière est impropre au royaume de Dieu. Ici, l'histoire de la charrue, ça évoque tout à fait Élisée, à Mechola. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups, n'emportez pas de bourse, pas de besace, pas de sandales, ne saluez personne en chemin, etc. On a encore des progrès à faire pour vivre l'évangile. Si on pouvait vivre comme le faisait Jésus ici, en circulant, avec ce regard sans préjugés, et puis cette personnalité qui rencontre comme ça, et s'adresse au nom propre que chacun a dans le cœur de Dieu. C'est dans le cadre de la montée à Jérusalem, on aura l'occasion d'y revenir. Il y a une spiritualité du Jourdain, descendre dans le Jourdain. Oui, alors descendre dans le Jourdain, c'est pas facile actuellement. Il y a un endroit qu'on peut, pas au sud du lac, la frontière entre la Jordanie et Israël, c'est le Yarmouk, qui sort entre les montagnes de Galaad et le plateau de Golan. Alors, le Jourdain, à sa sortie du lac, est tout entier en Israël. Malheureusement, il faut bien dire que c'est pas agréable. On l'a fait, c'était plutôt une cérémonie pénitentielle. Attendez, il y en a toujours qui demandent. Moi, je leur dis, écoutez, on va descendre dans le Jourdain. Et puis voilà, on va faire le détour, on va descendre dans le Jourdain, c'est là que la rencontre se fera. Et puis en général, on campe pas au bord du lac, parce que camper trop au bord du lac, ça amollit le tempérament, le climat est souvent, et puis il y a beaucoup de bruit maintenant, alors on campe dans une forêt où on respire et les énergies se renouvellent. Alors ce thème de la rencontre, vous voyez, on revient et puis on le reprend alors dans une célébration eucharistique, dans cette forêt où on campe.
Habituellement, quand on fait la Bible sur le terrain, là, le samedi de la première semaine, on est pressé d'arriver à l'endroit dont je viens de parler, cette forêt entre le Nazareth et le Tabor. Je voudrais qu'on s'attarde ici, sur des lieux qu'on n'a pas le temps de voir habituellement. Et on va commencer par une montagne, là, dont l'importance est très très grande, stratégiquement, spirituellement. Habituellement, j'en parle dans le bus quand il roule à 90 à l'heure en remontant le Jourdain. Et en fait, il suffit que je me retourne pour voir que presque tout le monde roupie. C'est dommage, parce que y a des choses importantes à dire. Alors avec la Jeep, on va s'arrêter au pied du Sartavé, c'est le nom de cette montagne. Vous voyez, son importance stratégique est évidente. Vous avez le Jabbok là, qui arrive des montagnes de Galaad, de Transjordanie, là-bas à l'est. On traverse le Jourdain au pont de Damier. C'est là que les eaux s'arrêtent, d'après la Bible, quand les Hébreux traversent le Jourdain en face de Jéricho. Et puis alors, quand on a traversé le Jourdain, on voit une route là qui part en direction du nord-ouest, qui fait un cercle autour d'une montagne là qui s'appelle le Djebel Kabir, avant d'arriver à Sichem, entre les Baal et le Garizim. Alors on va s'arrêter un peu et puis parler de cette montagne. Alors regardez, il y a une montagne là, pointue, qui s'impose dans le paysage, qui a une forme étrange. On l'appelle le Sartabé. Et certains... Elle est très impressionnante quand on vient de Jéricho et qu'on monte la vallée du Jourdain vers le nord. Et certains rapprochent le Sartabé du Sartsava. Il y a une vision, on va avoir la prise de Jéricho à la fin du chapitre 5 de Josué.
près de Jéricho, Josué leva les yeux et vit un homme qui se tenait debout devant lui, une épée nue à la main. Josué s'avança et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de Dieu. Ben, Sartre, ça va, pas impossible. Et maintenant, je suis venu. » Josué tomba la face contre terre, l'adora et dit, « Que dit mon serviteur, mon seigneur à son serviteur ?» Le chef de l'armée, Sartre, ça va, de Dieu, répondit à Josué, « Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te trouves est saint. » Bon, exactement la même phrase que dans le buisson ardent, pour montrer la continuité entre Moïse et Josué. Bon, enfin, cette montagne a une importance stratégique très grande. Elle commande précisément cette route dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, le Jabbok, on traverse le Jourdain et puis on enfile la route qui monte vers Sichem. Elle domine ce carrefour qui est au centre du pays. À l'époque des Asmonéens, successeurs des Maccabées, il y a Alexandre Janet qui a construit là une forteresse. Et c'est pour ça qu'on l'appelle aussi l'Alexandrion. Mais alors, c'est surtout à ça que je veux en venir, elle a une signification mystique surtout dans le judaïsme. Est-ce que vous avez entendu parler des Néoménies?
On allumait sur les montagnes.
Oui. À quelle occasion? Eh bien, de la nouvelle lune, Rosh Chodesh. Chodesh, ça veut dire Hadash. Vous vous rappelez que comment les Hébreux ont conquis leur identité dans le désert, dans l'action de grâce, Yehudim, ils ont été recyclés dans le vertical. Vous vous rappelez de ce qu'on a dit au désert? Bon. Alors, une fois arrivé en terre promise, le grand danger, quand tu seras rassasié et que tu auras bâti de belles maisons, n'oublie pas le Seigneur ton Dieu. Vous vous rappelez l'action de grâce? Et ici, vous avez une des plus belles coutumes destinées à maintenir l'action de grâce, la dimension verticale de signification de cette habitation dans cette terre sainte, dans cette terre promise. Alors les Hébreux, c'est très curieux, vous avez remarqué, ils ont un calendrier lunaire, parce qu'on s'habitue à tout. On retombe dans
l'horizontal.
Et remarquez, quand le soleil se lève, je vous ai appris la prière juive dans ces beaux levers de soleil qu'on avait dans le désert. Vous rappelez, béni sois-tu Seigneur, roi de l'univers, qui tous les matins, dans ta tendresse, renouvelle l'œuvre de la création. Mais le soleil, c'est trop régulier. On risque de s'habituer. La lune, au contraire, elle est extrêmement fantaisie. Vous avez pu vous apercevoir quand on campe. Là, moi, je n'ai pas encore réussi à comprendre la lune. On ne sait jamais quand elle se lève, quand elle se couche. Elle est là en plein midi. Pourquoi? Elle ne sert à rien. Et puis le soir, quand on a besoin d'un pour faire la cuisine, il n'est pas là. Alors, on ne peut pas s'habituer à la lune et il préfère le calendrier lunaire, quitte à faire un système de récupération pour garder un certain synchronisme avec le calendrier solaire. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que justement, ils ne veulent pas s'habituer. Remarquez, on peut calculer pour la lune. Ils ne sont pas plus bêtes que les autres, mais même plutôt, ils sont plutôt plus malins. Ils pourraient calculer, mais ils ne veulent pas calculer. Et alors, au lieu de calculer, il y a une cérémonie très curieuse qu'on fait au Rosh Chodesh, au début du mois. Et Chodesh, c'est Hadash, ça veut dire nouveau. Ouais, tout est toujours nouveau. On reçoit tout comme des cadeaux, comme dans le désert, quand Dieu faisait pleuvoir le pain, et on retrouve le sens de l'action de grâce. Rappelez cette expérience qu'on a fait au rythme de la marche dans le désert. Il faut la garder une fois qu'on est en terre promise. Bon, alors, il y a des témoins qui guettent l'arrivée de la nouvelle lune. Et c'est pas toujours facile, hein, c'est un petit filament et tout. Alors, dès qu'ils l'ont vu, ils vont témoigner solennellement devant le Seigneur qu'ils ont vu le lever de la nouvelle lune. Alors, aussitôt, on envoie des émissaires qui vont vers le mont des Oliviers où un bûcher a été préparé et on met le feu au bûcher. Et alors, le Sartabé est en communication oculaire directe avec le mont des Oliviers. Alors, dès que du Sartabé, on voit la flamme s'élever du mont des Oliviers, on allume un bûcher qui a été préparé sur le Sartabé. Il y a un troisième point qui s'appelle Korav Hayarden, ou qu'on appelle aussi la forteresse de Belvoir. On y passe quand on remonte la vallée du Jourdain entre la trouée de Betchan et puis le sud du lac. Magnifique point de vue, Belvoir. Et alors, là, il s'appelle Gorfina, allumé là. Ensuite, le Tabor, même chose. Le Tabor n'est pas très haut, mais on voit de partout en Galilée. Et alors, après ça, en haute, ça continue comme ça, une traînée de lumière. Et au fond, nous allons en Galilée un peu en suivant cette traînée de lumière. Ah, vous me direz tout ça, pourquoi? Eh bien, c'est que la centralité de Jérusalem dans le judaïsme est restée toujours extrêmement importante. Hein. Toutes les synagogues du monde sont tournées vers Jérusalem. Et il n'y a rien de tel que des cérémonies comme ça pour regarder le sens de cette centralité géographique. Et la prière juive est rythmée par ce leitmotiv, Hashana Ba Birushalayim, l'année prochaine à Jérusalem. Jamais l'espérance juive ne s'est dépolarisée de cette espérance du retour à Jérusalem. Bon, mais il y a une deuxième raison beaucoup plus profonde alors. C'est destiné à entretenir cette identité du peuple juif. Vous voyez, il ne faut pas s'habituer. Et au fond, ceux qui s'habituent, ce sont ceux qui s'habituent aux déterministes de la nature. On les appelle, dans le langage traditionnel, juifs des Akoum. Vous savez ce que ça veut dire? Akoum. Ovde, Kohavim ou Mazalot. Ceux qui adorent les astres et les étoiles. Il y a une façon de s'habituer comme ça, qui fait qu'on ne se se reporte plus vers le Créateur. Alors là, on veut crever tous les plafonds pour retrouver le Créateur et tout ce qui peut être objet d'idolâtrie.
Tenez, je vous lis ce passage qui est célèbre. On ne peut pas comprendre depuis l'histoire des rois mages qu'on va lire, qu'on va relire demain si on ne connaît pas cela. Prenez bien garde à vous-même, dans le Deutéronome. Vous n'avez vu aucune forme le jour où Dieu, à l'oreille, vous a parlé du milieu du feu. N'allez pas vous pervertir et vous faire une image sculptée, représentant quoi que ce soit, figure d'homme ou de femme, figure de quelqu'une des bêtes de la terre, figure de quelqu'un des oiseaux qui volent dans le ciel, figure de quelqu'un des reptiles qui rampent sur le sol, figure de quelqu'un des poissons qui vivent dans les eaux au-dessous de la terre. Et quand tu lèveras les yeux vers le ciel, quand tu verras le soleil, la lune, les étoiles, toute l'armée des cieux, ne va pas te laisser entraîner à te prosterner devant eux et les servir. Le Seigneur ton Dieu les a donnés en partage à tous les peuples qui sont sous le ciel. Et les rois mages de demain, soit les païens qui viennent à la crèche. Mais vous, le Seigneur vous a pris et vous avez sorti de cette fournaise pour le faire l'Égypte, pour que vous deveniez le peuple de son héritage, comme vous l'êtes encore aujourd'hui. Et dans la mesure où on s'habitue, où on ne dit pas le bénédicit avant le repas, où on perd la dimension d'action de grâce, nous devenons des akoum, des adorateurs d'étoiles. Voyez, on oublie le Créateur. Santé ? C'est terrible, ça. C'est ce qui peut arriver de pire dans la vie humaine. Alors, rien de tel que des cérémonies comme ça pour entretenir, voyez, cet élan. On refuse de s'habituer. Et on refuse de calculer. Et puis on reçoit tout comme des choses nouvelles. C'est toujours nouveau, d'où le mot chodesh, qui veut dire nouveau, chadash. Et puis on rend grâce à Dieu. On reçoit tout comme des cadeaux, tout est grâce. Mais alors vous me direz, qu'est-ce que saint Paul vient faire là-dedans quand il dit dans l'épître aux Colossiens que nul ne s'avise de vous critiquer sur des questions de nourriture et de boisson, ou en matière de fêtes annuelles, de nouvelles lunes et de Shabbat. Alors ça, comment est-ce qu'une chose si belle peut être critiquée comme ça par saint Paul? Alors là, nous arrivons à quelque chose d'extrêmement subtil. C'est que tout peut devenir objet d'idolâtrie. Tout peut devenir objet d'idolâtrie. Même pas les cérémonies et les lois qu'on fait pour éviter l'idolâtrie. À partir du moment où elles deviennent pas des fins, alors qu'elles sont destinées à être des moyens. C'est-à-dire qu'on garde les quo deviennent des quod. Pas les quo, c'est-à-dire les moyens vers, deviennent des choses en soi. Et plus une idole est noble, plus ça peut être dangereux, parce que plus on s'arrête, et plus notre aventure, pas d'homme à l'image de Dieu, en voyage vers Dieu, jusqu'à ce qu'il voit celui qui le voit, risque d'être contrarié, voire interrompu. Et il y a dans l'Apocalypse deux chapitres où notre liturgie romaine, mais je crois que toute l'Eucharistie est chrétienne, la trouve là-dedans. C'est deux chapitres, chapitres 4 et 5, où alors le monde entier reprend la dimension verticale. Une porte était ouverte dans le ciel, un trône était dressé vers le ciel, et siégeant sur le trône quelqu'un qui ne dit pas son nom. Celui qui siège est comme une vision de jaspe et de cornaline, un arc-en-ciel autour du trône, comme une vision d'émeraude. Ça évoque pas la vision qu'on a vue au pied du Sinaï, la conclusion de l'Alliance, vous rappelez ? Ils virent Dieu, et puis le pavement de saphir. Oui. 24 sièges entouraient le trône sur lequel sont assis 24 anciens, vêtus de blanc, des couronnes d'or sur leur tête. C'est l'humanité royale et sacerdotale qui prend possession du monde et qui lui imprime un élan d'action de grâce. Devant le trône, on dirait une mer transparente autant que du cristal. Et puis quatre vivants, le premier comme un lion, le deuxième comme un jeune taureau, le troisième comme un visage d'homme et le quatrième comme un aigle en plein vol. Ça représente toutes les forces du cosmos. Et les quatre vivants ne cessent de répéter « Saint, 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 Seigneur, Dieu, Maître de tout, il était, il est et il vient. » C'est notre Sanctus. Et chaque fois que les vivants offrent gloire, honneur et Eucharistie, c'est le mot qui est dans le grec du Nouveau Testament, à celui qui siège sur le trône et qui vit dans les siècles des siècles, les 24 anciens se prosternent pour adorer. Ils lancent leur couronne en disant « Tu es digne, par la préface, veredictum et justum est, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui créas l'univers par ta volonté. Il n'était pas et il fut créé. » Et alors ensuite, quelque chose détracte cette harmonie eucharistique du monde primitif. Et un livre roulé apparaît, écrit au recto et au verso, scellé de sept sceaux. Et personne ne peut ouvrir le livre et en briser les sceaux. Nul n'était capable, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, d'ouvrir le livre et de le lire. Et je pleurais fort de ce que nul ne s'était trouvé digne d'ouvrir le livre. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il ouvrira donc le livre aux sept sceaux. C'est le monde détraqué, et puis alors le monde qui retrouve, heureuse faute qui nous a voulu un tel rédempteur dans la liturgie de Pâques. Je vis debout entre le trône aux quatre vivants et les anciens, un agneau, comme égorgé. Et il était debout. Et il s'en vint prendre le livre dans la main droite de celui qui siège sur le trône. Et quand il l'eut pris, les quatre vivants et les 24 vieillards se prosternèrent, tenant chacun des coupes, une harpe et des coupes de pleines de parfums, les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau. Tu es digne, encore une préface, de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus égorgé, et tu rachetas pour Dieu au prix de ton sang des hommes de toute race, langue, peuple et nation. Tu as fait d'eux pour notre Dieu un royaume de prêtres régnant sur la terre. Ma vision se poursuivit, et j'entendis la voix d'une multitude d'anges rassemblés autour du trône des vivants et des vieillards. Ils se comptaient par myriades de myriades et par milliers de milliers, et ils criaient à pleine gorge, digne, et l'agneau égorgé, de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange, une doxologie à 7 termes, non, mais pas seulement à 4 termes comme la précédente, et toute créature dans le ciel et sur la terre et sous la terre et sur la mer, l'univers entier, je l'entendis s'écrier à celui qui siège sur le trône ainsi qu'à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire, la puissance dans les siècles des siècles. Et les quatre vivants disaient Amen, et les anciens se prosternèrent pour adorer. Notre liturgie eucharistique a trouvé son architecture pendant ces deux chapitres de l'Apocalypse. Puis il y a comme le pain et le vin. Le pain comme la première vision, là, le monde encore sans le péché de manière, et puis le sang, le drame, et le vin, le sang. Et puis, en fin de compte, un royaume qui est plus beau que le paradis perdu. Moi, je ne connais pas de paysage plus beau dans le pays. Et dans la ligne de notre trajet d'aujourd'hui à la recherche du culte en esprit et en vérité, d'évoquer le culte eucharistique. Et alors là, par lui, avec lui et en lui, dans l'Esprit Saint, il y a là un véhicule capable de nous transporter par-delà toute idolâtrie vers le Père de Jésus-Christ devenu notre Père. À toi tout honneur et toute gloire. La doxologie finale de notre Eucharistie.
Voilà pour le Sartre-Bé, hein, la deuxième étape du relais lumineux des Néoménies. Alors on va continuer vers la Galilée par la route de la lumière. La troisième étape, c'est Belvoir, mais puisqu'on a le temps, je propose qu'on fasse encore un détour par une partie de la plaine d'Israël, d'Esdrelon, comme on a pris l'habitude de dire en français. Une partie de cette plaine qu'on n'a jamais le temps de faire comme ça, d'être posée. On va traverser Merola, un village qui a repris le nom du patelin d'Élysée. Rappelez-vous la vocation d'Élysée qu'on a racontée tout à l'heure. Et puis regardez un peu comme le terrain, le climat ont changé en quelques kilomètres. À hauteur de Jéricho, en Judée, la montagne fait une barrière et les nuages se condensent au sommet de cette barrière. Et puis le désert commence tout de suite à l'est, pas à Jérusalem. On est tout de suite dans le désert dès qu'on franchit le mont des Oliviers. Et puis là, au fur et à mesure qu'on remonte la vallée du Jourdain vers le nord, la montagne de Samarie est de plus en plus perméable au vent d'ouest. Et on va bientôt voir s'ouvrir le paysage, mais alors complètement vers l'ouest, sans qu'aucun obstacle ne vienne plus s'opposer à l'humidité qui vient de la Méditerranée. Alors c'est un climat humide et chaud, on est encore en dessous du niveau de la mer, hein, environ moins 250 mètres, la terre est riche, c'est une bonne terre rouge, il y a du volcanisme, et c'est un paradis quand on réussit à localiser l'eau des marécages, comme on l'a fait jusqu'à la fin de l'époque byzantine, et comme c'est redevenu le cas quand les sionistes ont commencé leurs travaux par ici, bien avant la fondation de l'État d'Israël.